Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
On vit très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
Bien, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
J'ai une psy qui me fait tout le temps ça me rend dingue.
Ah oui. Parce que tu me dis, bonhomme, je suis poulet, moi je suis pas psychanalyste.
Hé, je te croyais plus fort que ça, Batman. c'est pas trop mortel, ça.
Même Batman voit régulièrement un psy. Bon, en l'occurrence, elle s'appelle Harley Quinn, elle en pince pour le Joker, et ses séances se concluent à coups de batte de baseball. Pourtant, un passage sur un vrai divan ne ferait pas de mal à l'homme chauve-souris. On le rappelle, ses parents ont été assassinés en pleine rue, devant ses yeux. Comme lui, de nombreux personnages de séries télé ou de cinéma souffrent de troubles psychiatriques. Je suis sûr que vous avez déjà un ou deux exemples qui vous viennent à l'esprit. Schizophrénie, syndrome de stress post-traumatique, bipolarité, dépression, conduite suicidaire, les scénaristes ne les affligent pas de ces pathologies par pur plaisir. En plus de raconter une histoire, ces failles dans la psyché de nos héros racontent quelque chose de notre société, son état, son évolution. Elle témoigne aussi de notre rapport à des maladies non fictionnelles qui, pour certaines, font encore peur. Pour en parler avec moi, un spécialiste multi-identité, Dr Christophe Debien, vous êtes cofondateur de la chaîne YouTube Le PsyLab, psychiatre au CHU de Lille et auteur du livre Nos héros sont malades, un ouvrage paru en septembre aux éditions Humaine Science. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Pendant toute la durée de la séance, nous serons accompagnés d'Arnaud Devillard, le journaliste high-tech de Science et Avenir, également co-auteur de deux livres sur le cinéma. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Je profite de ce petit moment pour te remercier, puisque c'est grâce à toi que cet épisode voit le jour, car je suis parti de ton article, c'est-à-dire la chronique que tu as faite du livre de Christophe Debien. Rendons à César ce qui lui revient. Alors justement, Christophe, en lisant votre livre, j'ai découvert que la représentation des problèmes psychiatriques était apparue très tôt, quasiment au commencement du cinéma.
Ah oui, alors j'ai un peu triché dans le bouquin en disant que la psychiatrie et le cinéma étaient nés en même temps, parce qu'en fait c'est la psychanalyse qui est née à peu près à cette époque-là, et le cinéma. Mais effectivement, le cinéma s'en empare tout de suite. Je pense que c'est assez logique, en fait, parce que on est toujours fasciné par ce qui se passe dans la tête de l'autre, en dehors de la maladie mentale, et que le cinéma offrait ou offre aux scénaristes et aux réalisateurs une possibilité d'essayer de représenter ce qu'il y a dans le psychisme de celui qui est en face de nous. Donc, pour moi, c'est assez logique. Et effectivement, on voit des films dès 1900, hein, donc quelques années après la naissance officielle du cinéma, où sont mis en scène, des personnes qui sont atteintes de maladies mentales, et d'ailleurs qui vont fixer un certain nombre de stigmates, d'idées reçues sur le fou qui s'habille en Napoléon. Là, je pense à Escape Lunatic, qu'on retrouve assez facilement sur YouTube, où c'est une personne atteinte d'une maladie mentale X, qui est habillé en Napoléon et qui s'échappe de l'hôpital et on lui saute dessus à la fin. Enfin, vraiment, c'est toutes les représentations déjà négatives de la psychiatrie et des patients, elles sont dans ce court-métrage.
Vous n'avez pas assisté à la naissance du cinéma, mais à quel moment vous vous êtes mis à psychanalyser les personnages de fiction qui apparaissaient sur votre écran, que ce soit au cinéma ou sur votre écran de télévision ?
En fait, c'est venu... Alors d'abord, j'aime beaucoup le cinéma depuis très longtemps. J'ai eu la chance de faire mes études Boulevard Saint-Michel et donc d'avoir tous ces vieux cinémas, enfin ces cinémas d'art et d'essai qui existaient encore et donc d'aller voir aussi des films un peu en dehors de ce qui se faisait dans les circuits classiques. Après, il y a eu la découverte des séries beaucoup plus tard. avec mon épouse, hein, on est vraiment tombés amoureux des séries. Alors pour nous, la première série phare, c'est X-Files, bon, rien à voir avec la psychiatrie. Et puis, je suis tombé sur un article, en fait, qui parlait d'un bouquin qui s'appelle « Psychiatrie and Cinema » ou « Cinema and Psychiatry » de Gabbard et Gabbard, qui sont des universitaires américains, et qui expliquaient qu'ils utilisaient des extraits de films pour l'enseignement à leurs internes. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. J'étais encore interne, mais j'avais déjà envie d'enseigner. Et je me suis dit, il y a quelque chose dans la représentation. On a toujours du mal à apprendre les symptômes d'une maladie en lisant un ouvrage. Si on peut les représenter, c'est mieux. Et comme moi je suis d'une génération où on commençait à abandonner le fait de filmer les patients, puisqu'il y a toute une génération, notamment les neurologues, au début du XXe siècle, ou même jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, où les médecins filmaient leurs patients pour l'enseignement. Moi, je suis arrivé à un moment où ça s'était un peu abandonné. Je me suis dit, peut-être qu'au cinéma et dans les séries, il y a des choses. Et j'ai commencé à regarder les films et les séries d'un autre œil.
Il me semble que vous avez besoin d'un héros.
Ouais.
Oh, c'est vrai que vous répondez peut-être déjà un petit peu à la prochaine question, parce qu'on voit très vite le potentiel narratif d'un personnage principal, qu'il soit bon ou mauvais, et un personnage qui donc souffre de PTSD, qui soit, par exemple, il peut être également bipolaire ou schizophrène. C'est vrai que le récit, pour être intéressant, exige souvent que ce personnage, il soit hors norme, qu'il soit exceptionnel. Donc ma question, alors vous y avez déjà potentiellement répondu, elle est réductrice, c'est est-ce que l'intérêt cinématographique ou télé de montrer quelqu'un atteint de troubles psychiatriques, est-ce qu'il réside uniquement dans cette différence et dans la peur que cette différence peut susciter via ses comportements qui justement sortent de la norme?
Alors il y a une première chose, effectivement. Alors je sais plus qui a dit les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais c'est vrai que quand on veut raconter une histoire, il faut qu'il y ait des failles, il faut qu'il y ait des drames, et d'utiliser comme faille la maladie mentale, qui est une faille qui ne se voit pas. Hein, il y a vraiment cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir un personnage qui a un comportement tout à fait classique et des pensées tout à fait classiques à un moment, et qui va changer de comportement sous l'influence d'une maladie mentale. Donc ça, effectivement, ça permet d'avoir une faille cachée. Je pense que ça répond au vieux fantasme aussi qu'on a de savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre, qui est un fantasme qu'on peut connaître avec nos amis ou avec nos proches. Et puis, la psychiatrie a toujours été liée au mouvement de société. Il n'y a pas de l'influence, enfin, il y a un dialogue permanent entre l'évolution des idées dans la société et ce qui se passe en psychiatrie. Je vais prendre de façon très caricaturale ce qui se passe en 68, 69 en France, mais bon, un peu partout. On a ce mouvement de révolution pour une aspiration à une nouvelle société, et c'est le moment où il y a le mouvement dit de l'antipsychiatrie. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir que la psychiatrie en France, en tant que spécialité, elle est née en 69. Donc, se prendre le mouvement antipsychiatrie un an après, c'était un peu dur pour cette spécialité. Et donc, ça, on le retrouve au cinéma. Enfin, tout de suite, ça va être représenté, ça va être utilisé dans Family Life. Hein. On a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'antipsychiatrie, puisque on voit cette jeune fille qui est
De Ken Loach,
voilà, je cherchais. Ah, voilà. On voit cette jeune fille qui tombe malade sur le plan psychiatrique par la pression de la société, hein, c'est tel que c'est illustré par Ken Loach, et là, en l'occurrence, d'une micro-société qui est la famille. On voit comment elle est traitée, voire maltraitée par la psychiatrie, et que voilà, on est dans ce mouvement où on pense que la maladie mentale n'existe pas. Il y a même des gens qui allaient jusqu'à là à ce moment-là, et que donc elle n'existe pas, mais elle est créée par la société, et donc c'est à la société d'y répondre. On voit bien, hein, là d'ailleurs, même de façon beaucoup plus récente, dans cette volonté de montrer avec plus de pertinence les troubles mentaux depuis, allez, on va dire une vingtaine d'années, et puis vraiment là, il y a un mouvement qui s'accélère depuis 10 ans. Donc avec une société qui change aussi, qui essaye de s'intéresser à la maladie mentale, de prendre en compte les personnes qui sont hélas, atteinte de maladie mentale.
Ok, on va évoquer tout ça. Hein.
Il y a aussi, pardon Arnaud. Je voulais juste ajouter, effectivement, par rapport à... Il y a aussi un effet purement visuel, je trouve, qui fait que le cinéma ou les séries peuvent s'intéresser à tout ce qui tourne autour de la psychiatrie. Enfin, moi, je vois deux éléments. C'est à la fois, il y a le langage cinématographique lui-même, avec, par exemple, des procédés de flashback ou de montage parallèle qui permettent de mettre en scène une enquête psychiatrique, fouiller le passé de quelqu'un. Il y a des procédés narratifs propres au cinéma qui aident pas mal, je trouve, à représenter ça. Il y a pas mal de films cités dans le livre de Christophe Debien, comme Spider ou d'autres, qui utilisent des procédés qui ne pourraient pas être utilisés dans un livre ou dans un essai. Et il y a une autre chose, c'est que visuellement aussi, il y a un imaginaire de l'univers psychiatrique, notamment figé dans les, vous savez, ces grands hôpitaux psychiatriques du 19e siècle en Angleterre.
Les salles capitonnées, tout
voilà.
Ça.
Pas exactement ça, je pensais plutôt à ces espèces d'immenses bâtiments victoriens qui ressemblent un peu à des manoirs, ce qu'on appelait qui sont faits d'un architecte très connu dont le nom à l'instant m'échappe, et qui créait des cathédrales pour les malades mentaux, et qui sont ces espèces de manoirs à la fois magnifiques et oppressants, qui sont la plupart en ruine maintenant aux États-Unis ou en Angleterre, et qui font que dans les films, il y a cet imaginaire un peu inquiétant de la psychiatrie, et qui encore une fois, visuellement, ça, c'est marquant, et c'est tentant d'exploiter ça, quoi. Voilà.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il y a une utilisation dans le film dit de genre.
Tout à fait. Donc, tout à
les
fait.
Films d'horreur, les films fantastiques, de ces endroits, où d'ailleurs, en fait, c'est quasiment des films sur la psychiatrie, sauf qu'au dernier moment, on a une explication fantastique, mais la frontière est quelquefois. Très, je pense à l'échelle de Jacob, par exemple. Oui. On a plusieurs lectures. Bon, moi, je le vois comme quelque chose qui parle du trouble de stress post-traumatique, mais on peut le voir comme un film fantastique d'horreur classique. On voit bien que quelquefois, la frontière, elle est vraiment toute fine.
Alors, on garde justement le PTSD de côté, puisque votre premier chapitre s'ouvre sur un Rambo finalement très éloigné de l'image qu'on retient dans la culture populaire, c'est-à-dire celle du soldat ultime, un petit peu. Pour vous, Rambo, c'est d'abord l'incarnation d'un trauma.
Oui, alors pas que pour moi, en fait. Hein. Rambo, c'est un roman, déjà. C'est un roman écrit par un universitaire, donc qui n'est pas romancier.
Qui est fabuleux.
Qui est canadien et qui se retrouve à enseigner aux États-Unis, me semble-t-il, et qui est frappé par l'état de santé psychique de ses étudiants. Donc, en fait, c'est une constatation béotienne. Et il commence à se poser des questions. Et quand il écrit son roman, le syndrome de stress post-traumatique n'est pas reconnu par les classifications internationales des maladies. Donc je pense qu'il est embêté à ce moment-là. Donc il en fait un roman sans pouvoir le raccrocher à véritablement une entité, une maladie. Alors son roman est beaucoup plus violent. Hein. Rambo est montré de façon beaucoup plus violente et beaucoup moins subtile, je trouve, que dans le film, en tous les cas sur le côté trouble de stress post-traumatique. Mais on part de cette constatation, on part de la constatation de ces étudiants qui reviennent de la guerre et qui vont mal. Et bon, le film sort juste après la reconnaissance du trouble de stress post-traumatique par les classifications internationales, donc je pense que ça colore. Alors avec en plus de ça, pas mal de scénaristes qui ont fait la guerre du Vietnam, et donc ils vont colorer un certain nombre de films, soit par leurs conseils, leurs interventions en tant que script doctor. Je pense à Taxi Driver, par exemple. Hein, Taxi Driver, rares sont les gens qui ont vu que De Niro, ce personnage, souffrait d'un trouble de stress post-traumatique et notamment de troubles du sommeil. Et dans Rambo, là, on a, alors, ce que disait Arnaud tout à l'heure est tout à fait exact, c'est-à-dire que le procédé cinématographique permet de montrer facilement ce qu'on appelle la reviviscence, c'est-à-dire le fait que on est replongé par moment, soit par un déclencheur comme dans la scène du commissariat de Rambo où on le rase, soit sans déclencheur, on est replongé dans la scène qui a été à l'origine de notre traumatisme. Et on voit la violence qui se déclenche, et notamment dans cette scène qui est très importante, c'est une violence en fait de survie, c'est-à-dire qu'il revit la séance de torture et donc il veut s'en extraire. Il n'a rien contre ces policiers là qui sont autour de lui en fait en tant que tel, mais il ne les voit pas. Ce qu'il voit, ce sont ces tortionnaires véritablement.
Il y a un mort. C'est pas ma faute. Je veux de mal à personne.
Bouge pas. Reste où tu es.
Et on comprend là où je trouve ça magnifique dans ce film, c'est la scène de fin avec cette confession de John Rambo à son supérieur, où on comprend l'origine de son trauma. D'ailleurs, je vous conseille de la voir en VO, parce que je trouve que Stallone joue très très bien. En VF, la voix de Stallone est très agréable, mais il y a moins d'intensité dans ce moment de confession où il explique qu'il a vu un camarade exploser devant lui et que c'est... On comprend que c'est à partir de là qu'il fait son syndrome de stress post-traumatique.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ce que dit le film, alors, enfin, bon, il y a ce personnage et effectivement tout ce mécanisme du stress post-traumatique, mais c'est aussi que finalement, c'est un moyen, voilà, on prend la psychiatrie les troubles pour parler de la société. C'est-à-dire que l'état de l'Amérique à l'époque, et en tout cas, le livre, c'était ça, c'est comme vous l'avez expliqué. Et en plus, dans le livre, en fait, c'est un livre à deux points de vue, ce qui n'est pas le cas du film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois le shérif et le personnage de Rambo qui, toutes les scènes sont racontées des deux points de vue. Donc, il y a vraiment le pays qui est divisé, quoi. Et là, le film sert aussi à ça, à montrer à quel point le pays est ravagé, quoi. Mais ravagé de l'intérieur par ce conflit et par les conflits de génération que ça a généré. Et la psychiatrie sert à ça, quoi. C'est vrai, le trouble psychiatrique sert à ça.
Il y a même une hypothèse. Alors, c'est juste une hypothèse, hein. C'est que je me demande si dans le cadre de ce trouble de stress post-traumatique, le cinéma n'a pas servi la psychiatrie, parce que la reconnaissance du trouble de stress post-traumatique, ça a été un long chemin de croix, notamment pour les victimes, puisqu'il y avait deux enjeux. Il y avait l'enjeu de faire reconnaître le trouble de stress post-traumatique des anciens du Vietnam, et il y avait une grosse résistance, parce que s'il y a une reconnaissance du trouble, évidemment, il y a une indemnité qui doit être versée, donc il y avait une grosse résistance du gouvernement américain. Et à côté de ça, il y avait les mouvements féministes qui voulaient qu'on reconnaisse le viol et les conséquences du viol, à tel point que les mouvements féministes sont allés voir des psychiatres et qu'il y a eu la création de ce qu'on a appelé à un moment le rape syndrome, le syndrome du viol, qui ont permis, ces deux mouvements de société ont permis de faire rentrer le trouble de stress post-traumatique dans une classification internationale, c'est-à-dire dans une reconnaissance médicale, avec les conséquences d'indemnisation d'un côté, mais surtout les conséquences de se mettre à travailler sur le soin.
Ouais.
Et on voit bien qu'il y a, et le cinéma, à mon avis, a pas mal aidé le cinéma de cette époque, parce que il a montré ce que certains psychiatres essayaient de faire reconnaître et qui n'était pas évident.
Alors, vous dites justement dans votre ouvrage qu'explorer et représenter fidèlement une maladie psychiatrique, ça prend du temps. Est-ce que vous avez dit que donc les films ont eu un impact, ils ont participé à une forme de reconnaissance et de prise en charge de certains de ces troubles, mais est-ce que les séries sont un meilleur support? Alors bon, la réponse est peut-être dans la question, mais pour justement représenter fidèlement.
Je pense que oui, parce que la psychiatrie, mais en fait, c'est pas spécifique de la psychiatrie. La médecine demande du temps. Un diagnostic, ça demande du temps. Un traitement, ça demande du temps. Alors, on n'a plus l'habitude, en 2020, de prendre en compte cette donnée. On le voit bien avec la crise sanitaire que l'on traverse, hein. On a envie que ça se résolve vite, ouais, sauf que, un vaccin, déjà, c'est 15 ans d'habitude. Là, ça va être un an et demi. Donc, il y a déjà une énorme accélération, hein, qui est assez incroyable. Et c'est à peu près pareil partout, et c'est d'autant plus pareil en psychiatrie. Les troubles, en général, ne commencent pas du jour au lendemain. Il y a une installation progressive, insidieuse, et ça, le temps de la série le permet. On peut installer un trouble sur 3 fois 50 minutes, quoi. Alors qu'au cinéma, si on se met à installer un trouble, on a les 10 premières minutes pour installer le trouble, ou les 15 premières minutes. Et pareil pour la thérapie, j'adorerais soigner et guérir les patients qui viennent me voir en 20 minutes, mais je n'y arrive pas. je suis désolé. Et il faut un peu de temps. Dans le meilleur des cas, il faut quelques mois. Dans le pire des cas, il faut quelques années. Et donc, du coup, là aussi, le temps de la série permet de montrer cette subtilité et cette absence de... des raccourcis qu'on a au cinéma, au moins là, on voit un peu se développer. Il y a In Treatment, par exemple, cette série qui est centrée sur des séances de thérapie, qui est très intéressante de ce point de vue-là.
Et justement, ça peut prendre plusieurs saisons, hein. C'est le cas, par exemple, du personnage principal des Sopranos ou dans également la série Six Feet Under. Alors, c'est deux séries HBO que vous posez un peu comme des séries fondatrices en matière de représentation.
Oui, alors c'est pas moi qui le dis, hein. J'avais trouvé un article. Alors, j'ai essayé d'être le plus honnête possible dans ce bouquin, c'est-à-dire d'être le moins subjectif possible, et notamment sur des choses que je maîtrisais pas, c'est-à-dire l'histoire des séries. Oui, je m'y intéresse, mais c'est pas ma spécialité. Et j'ai trouvé un très bon article sur, d'ailleurs, qui est sur Internet, que je cite dans le bouquin, sur l'histoire des séries et qui décrit un deuxième âge d'or des séries qui arrive en 99 avec Les Sopranos. Et en fait, en reprenant cet article, je l'ai trouvé très très pertinent parce que on voit bien qu'il y a un virage, en tous les cas, vis-à-vis de la maladie mentale dans Les Sopranos, une installation progressive encore une fois, et puis le temps, ce mélange entre la réalité de Tony Soprano et puis ses séances, c'est vraiment assez inédit. Et puis l'intérêt qu'on a, enfin, on s'intéresse essentiellement, plus essentiellement aux relations humaines qu'à l'histoire. Bon, l'histoire est intéressante dans Les Sopranos, mais elle est standard, on l'a déjà vu. Par contre, de s'intéresser à ce point aux relations humaines, je trouve que ça, c'est nouveau et qu'on retrouve de façon très exacerbée dans Six Feet Under. Six Feet Under, ce sont des histoires de vie.
Et de mort, du coup.
Et de mort,
oui. On suit une famille de thanatopracteurs.
Tout à fait.
Je sais pas où tu mets les pieds, ta tête est pas bien sur tes épaules. Tu devrais quand même faire gaffe.
Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très nouveau dans la façon, peut-être, de délaisser un peu l'histoire, de pas vouloir faire une histoire pour faire une histoire, mais de s'apercevoir que ce qui est intéressant, c'est les relations entre les personnages.
Vas-y, Arnaud.
Oui, non, juste pour rebondir, c'est vrai que, par exemple, ce temps long et le fait que, voilà, on s'intéresse à des relations entre personnages, et moi, ça me fait tout de suite penser à la série Breaking Bad, qui ne parle pas du tout d'un trouble psychiatrique ou mental, mais, à un moment donné, où là, le personnage secondaire, qui est le jeune Jesse, qui travaille donc avec le personnage principal qui fabrique de la drogue, là, qui sombre dans une dépression. Et il y a plusieurs épisodes, quasiment presque une saison, où on voit ce type qui, suite à diverses péripéties, s'enferme, s'enfonce dans une espèce de dépression. Il est quasiment catatonique. C'est pas du tout l'histoire de la série. C'est pas du tout l'argument principal, narratif. Mais pourtant, on a le temps de traiter ça. On a le temps de créer un arc narratif parallèle autour de la situation de ce personnage qui perd pied, quoi. Et je trouvais ça intéressant. Effectivement, ça illustre très bien ce que vient de dire Christophe Debien sur le fait qu'on crée de relations entre personnages avec une série, qu'on peut déployer plusieurs intrigues, trames, voilà, chercher le mot.
Une petite parenthèse quand même pour c'est vrai que Les Sopranos, c'est pas une série sur des chanteurs à la voix aiguë, hein, c'est une série qui suit des mafieux, et en l'occurrence Tony Soprano, qui est un chef, mais qui a aussi des petits problèmes, enfin des problèmes un gros trouble psychiatrique, enfin il souffre de dépression et il est suivi dans chaque épisode. C'est bien ça, Christophe?
Oui, tout à fait. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on retrouve ça dans le film avec De Niro, Mafia Blues. C'est assez intéressant de mettre les deux en parallèle, parce que en fait c'est la même histoire. Mafia Blues, c'est pareil, c'est un chef de la mafia qui commence par des troubles anxieux et à s'enfoncer dans un trouble dépressif. Et on voit bien, même si Mafia Blues est un film sympathique et qui montre assez bien les troubles psychiatriques, mais surtout la stigmatisation des troubles psychiatriques, mais on voit bien la différence de traité, c'est-à-dire que dans Les Sopranos, si je prends que la première saison des Sopranos, on a le temps de voir ce que fait la dépression, les différents visages de la dépression aussi, hein, de pas tomber dans les caricatures, et puis l'avancée ou les difficultés aussi dans la thérapie, surtout que c'est une thérapie entre un... Ça, elle pose une vraie question, hein, c'est est-ce qu'on... Elle va le soigner de sa dépression, mais pas de son trouble de la personnalité. Donc, au niveau éthique, c'est très, très compliqué pour elle, hein, sa psychiatre, je veux dire, le docteur Melfi. Alors que dans Mafia Blues, bon, d'abord, c'est une comédie, donc on n'est pas du tout dans le même ton, mais tout est ramassé, tout est beaucoup moins subtil. Ceci dit, je le trouve intéressant aussi, Mafia Blues, hein, sur le côté de représentation essentiellement des idées reçues sur la dépression.
Alors, on va évoquer les productions un peu plus récentes, hein, on va quitter la fin des années 90. Est-ce qu'on voit de plus en plus de séries qui évoquent ces troubles psychiatriques, car les tabous ont sauté avec le temps, ou est-ce que, parce que justement, ces séries contribuent, elles, tout à l'heure vous parliez de films qui ont pu le faire, est-ce que ces séries, elles apparaissent parce qu'elles contribuent à lever des barrières dans la société, dans les représentations au cinéma et sur le petit écran?
Alors, je vais avoir une réponse, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que ce dialogue qu'il y a entre la société et la psychiatrie, on le retrouve là, avec les séries. Je pense que la société est en train d'évoluer. Enfin, je pense, c'est très présomptueux de dire ça, je suis pas sociologue, mais c'est évident ce que je dis, ne serait-ce que si je prends par exemple les violences faites aux femmes. Voilà, on a vu émerger enfin une prise en compte des violences faites aux femmes. Ça date pas d'hier, les violences faites aux femmes. Donc on voit bien que la société est capable de s'emparer de sujets graves, de sujets qui ont attrait directement ou indirectement avec la maladie mentale. Et donc, si la société en parle, bah le cinéma, les séries vont s'en emparer. Mais à l'inverse, le cinéma et les séries peuvent être et ont été, je pense par exemple à Atypical hein, sur l'autisme, enfin une certaine partie de l'autisme, ou Sheldon, pareil, sur une certaine partie de l'autisme, dans Big Bang Theory, elles peuvent être précurseurs en fait.
Ah, tu vois, ça prouve la fragilité de la condition humaine et ce que c'est que de nous.
Donc, il y a un dialogue qui se met en place et je trouve que la série qui est extraordinaire là-dessus, c'est une série qui est un peu passée sous les radars parce qu'elle est exigeante, c'est Maniac. Maniac, honnêtement, en tant que psychiatre, je n'ai jamais vu une série comme ça qui interroge autant sur ce qu'est la psychiatrie. Et elle est hyper intéressante là-dessus, et même sur le devenir de la psychiatrie, psychiatrie biologique versus psychiatrie psychothérapeutique, émergence des nouvelles technologies avec la réalité virtuelle. Voilà, c'est cet objet-là, Maniac, c'est pour moi vraiment quelque chose qui montre à quel point il y a un dialogue constant entre les modifications d'idées dans la société et les séries et le cinéma.
Alors Maniac, c'est quoi ? C'est une série Netflix qui est sortie il y a quoi ? Il y a quelques temps, c'est ça ? Il y a 2-3 ans, je crois.
Ouais, c'est ça.
Avec Emma Stone, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait. Et c'est une série exigeante parce que déjà le look est rétro-futur, c'est-à-dire qu'on est dans un futur proche mais qui ressemble aux années 70. Et puis c'est une série qui ne vient pas vous chercher par le col pour vous entraîner dans la série. C'est à vous d'accepter l'univers et d'y aller, avec une représentation de la maladie mentale, notamment de la schizophrénie, qui est intéressante, dans le sens où elle est pas trop caricaturale, et puis surtout qui montre un personnage qui, avant tout, est un être humain. C'est-à-dire, c'est pas un schizophrène. Moi, je déteste cette appellation. C'est une personne qui est atteinte de schizophrénie, mais c'est avant tout une personne. Donc, c'est quelqu'un qui veut aimer, qui veut travailler, qui veut avoir des relations satisfaisantes avec les autres. Et il y a la maladie qui vient l'handicaper de tous ces côtés-là. Et comment on fait avec ce handicap? Comment on fait pour être accompagné? Comment on fait pour être soigné? Elle est vraiment géniale, cette série.
Alors, je reprécise. Donc, c'est bien une série Netflix sortie en 2018. Et aux côtés d'Emma Stone, il y a le personnage que vous évoquiez, qui est incarné par Jonah Hill.
Tout à fait.
Alors, pardon Arnaud, vas-y.
Oui, non, parce que je rebondissais, c'est juste parce que moi ça me fait penser, je trouve qu'il y a encore peut-être des progrès à faire. Moi, il y a une série que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, qui c'était Monsieur Robot, enfin Mister Robot. C'est... Et en fait, donc sur un hacker un hacker, voilà. La série est assez noire, assez. Et en fait, le personnage principal consulte en fait. Et alors, je trouve que c'est pas très clair de savoir si c'est une s'il a besoin d'une psychanalyse ou carrément d'un traitement psychiatrique, parce qu'à la fois, de toute évidence, la personne chez qui il va, c'est une psychanalyste. Donc, on voit des séances, on a une mise en scène de séances de psychanalyse ou de psychothérapie, je sais pas, c'est un peu flou. Mais en même temps, le personnage, il est carrément, il a un vrai problème il a des visions, il y a des épisodes entiers où en fait on se rend compte que ce qu'on nous a raconté c'était dans sa tête et pas du tout la réalité. Il confond sa sœur avec sa petite amie, il voit son père mais en fait son père il est mort. Donc là on est vraiment dans la maladie. On est encore, je trouve, ou peut-être je m'y connais peut-être pas assez, mais de la confusion entre ce qu'est psychanalyse, psychiatrie, schizophrénie. Voilà, c'est exactement ce que dit Christophe Debien sur le. Voilà, déjà, c'est des gens, c'est des personnes, ce ne sont pas juste des maladies. Et donc du coup, là, je trouve qu'il y a un vrai problème de définition dans cette série de quoi est atteint ce personnage, parce que concrètement, il faudrait, je vais caricaturer, mais il faudrait presque l'enfermer normalement ou lui donner des cachets.
Alors tout à fait. Alors, Mister Robot, je l'ai pas cité justement dans le bouquin parce que j'étais très embêté avec cette série que j'aime beaucoup. Donc je me méfie quand j'aime beaucoup, mais la représentation de la maladie qui a priori serait la schizophrénie, elle est complètement fausse.
Ouais.
Donc du coup, je voulais pas être confusionnant dans le bouquin. Peut-être s'il y a un tome 2, on pourra rentrer dans la subtilité. Je voulais là, dans le bouquin, essentiellement donner des grands repères. Alors forcément, quand on donne des grands repères, on simplifie. J'ai un certain nombre de collègues qui m'ont déjà fait la remarque. Oui, j'assume cette simplification parce que il faut d'abord avoir une base avant de commencer à rentrer dans la subtilité. Mister Robot, c'est l'utilisation de la maladie mentale pour servir la narration.
Oui, tout à fait.
Un peu comme l'a fait Hitchcock, qui mélangeait complètement les choses. Maintenant, je trouve ça très intéressant ce que vous dites, cette confusion. Parce que cette confusion, elle est entretenue, certes, par le cinéma et les séries, mais elle est entretenue aussi par nous. C'est-à-dire nous, les psychiatres, psychologues, psychothérapeutes. Et donc là aussi, dans le bouquin, j'ai essayé de donner quelques repères, notamment la définition de ce qu'est un psychanalyste, de ce qu'est un psychiatre et de ce qu'est un psychologue, pour que les gens puissent appréhender ça. Les scénaristes et les réalisateurs, en général, ils ont du mal quand même, hein, parce que quelquefois, ils appellent quelqu'un psychiatre, et puis sur sa plaque, c'est psychologue. Bon, effectivement, il y a encore des progrès à faire.
En route, mauvaise troupe. Hop, hop, hop.
On devrait tous aller voir un psy.
Ça, c'est la règle numéro 4. Allons récupérer votre copain.
Sachant que le psychiatre, si je dis pas de bêtises, c'est le seul, entre guillemets, médecin.
Tout à fait, pas entre guillemets, médecin.
Voilà, je voulais être certain.
Tout à fait.
Justement, pour aller dans les séries ou les programmes qui collent de façon un peu plus fidèle et qui utilisent peut-être moins les troubles comme des arguments narratifs, il y a deux séries que vous évoquez. Alors, j'aimerais bien peut-être qu'on prenne le temps de s'attarder sur l'une des deux. Là, c'est vous qui choisirez. C'est Homeland, donc où on suit un personnage qui souffre de bipolarité, et 13 Reasons Why, alors tout à fait différente, hein, qui aborde de façon très concrète et de façon même assez dure, hein, le sujet du comportement et de la conduite suicidaire.
Je ne sais pas si on a le temps de parler des deux.
Non, on va peut-être 13 Reasons Why, vu que c'est peut-être la plus actuelle et celle qui a eu peut-être le plus d'impact.
Alors, 13 Reasons Why, c'est vrai que c'est une série que je conseille, enfin, je conseille, hein, qu'on conseille, en fait, les suicidologues, parce que déjà, rien que dans le titre, ça casse une des idées reçues sur le suicide, c'est-à-dire que c'est pas une cause qui amène au passage à l'acte, hein. C'est pas parce que on a été victime d'une rupture sentimentale qu'on passe à l'acte, hein. Sinon moi je serais passé à l'acte une centaine de fois, mais c'est parce que cette rupture, elle intervient dans un contexte, hein, et puis c'est l'accumulation d'événements négatifs qui mettent à mal nos facultés d'adaptation. Et donc, en s'appelant 13 raisons 2, on voit très bien qu'il lui a fallu, entre guillemets, 13 raisons d'arriver à ce passage à l'acte. Ensuite, je trouve que chaque épisode, alors même si la construction est un peu caricaturale, mais chaque épisode va mettre vraiment en exergue une des raisons, comme par exemple, je pense à l'épisode 2 ou à l'épisode 3, où on voit les amis qui s'éloignent. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est la vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a des super amis et puis ils s'éloignent. Et ils s'éloignent pas parce qu'ils la rejettent, ils s'éloignent parce qu'ils tombent amoureux et ils vivent leur histoire d'amour de leur côté. Sauf que c'est un moment où elle a besoin de soutien. Mais ça, ils le savent pas, eux, ils sont dans leur amour. Donc c'est quelque chose de la vie de tous les jours, j'allais dire, qu'on a tous vécu. Et je trouve ça très, très intéressant. Ce que je reproche à la série, c'est à partir du 9e épisode où il arrive des choses super graves.
Ouais.
Et on a l'impression que c'est ça.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Et donc ça, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des choses super graves qui nous arrivent pour qu'on arrive à cette idée des idées suicidaires.
C'est cet aspect multifactoriel, c'est ça, hein, que vous...
Exactement.
C'est-à-dire qu'à un moment, la série, au bout d'un moment, effectivement, c'est exactement ça, elle perd finalement, en fait, elle se contredit elle-même. C'est-à-dire qu'on part de l'idée 13 Reasons Why, donc on va avoir une myriade de raisons, chacune n'aura pas un poids énorme, mais c'est l'accumulation des défenses de la personne qui vont s'effondrer face à des petites adversités. Et puis tout d'un coup, on a des événements traumatiques vraiment lourds. Et ça contredit justement l'idée que on peut légitimement se dire, ben non, c'est cet événement qui est la cause de. Alors qu'en fait, la série veut pas justement montrer ça.
Ouais, ça c'est un peu c'est vraiment un des défauts. D'un autre côté, ça a permis de montrer des scènes très dures, et notamment un phénomène qu'on connaît dans le trauma aigu, et le trauma aigu dans la série, c'est le viol, qui est la sidération. On montre rarement la sidération, or c'est quelque chose de très lourd pour les victimes. C'est quelque chose qui n'est pas toujours compris par les forces de l'ordre, hein, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir se défendre, s'extraire de l'agression, parce que il y a un mécanisme neurologique, hein, qui fait qu'on est complètement bloqué, et dans sa tête et dans son corps. Et ça, on le voit très, très bien dans cette scène qui est absolument, d'ailleurs, horrible à voir. Et puis, il y avait un autre problème dans 13 Reasons Why, hein, qui a mis 2 ans pour être résolu, c'était la représentation directe du passage à l'acte, qui a été beaucoup décrié par pas mal de suicidologues dans le monde entier, parce que c'est le risque de l'effet Werther, c'est-à-dire l'effet de contamination, de contagion suicidaire par identification au personnage principal et utilisation du moyen de passage à l'acte que l'on voit à l'écran. Netflix a mis 2 ans à retirer cette scène. Alors, il ne s'agit pas pour nous de donner des éléments de censure, hein, mais il s'agit pour nous de sensibiliser les scénaristes, hein, les journalistes, hein, d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que dans la fiction qu'on parle de suicide, à la responsabilité qu'on a en fonction de la façon dont on communique. Et par exemple, je sais pas, pour ceux qui ont vu la scène, moi j'ai vu les 2 versions, la version avec la scène, la version sans la scène. Ben je peux vous assurer que la version sans la scène est beaucoup plus dure d'un point de vue émotionnel que la version avec la scène. Donc on voit bien que rajouter cette scène ne servait à rien en fait d'un point de vue narratif, et par contre aurait pu et a peut-être eu un impact sur l'effet de contagion suicidaire.
Je te ferai jamais de mal. Ni maintenant, ni jamais.
Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça quand j'étais vivante ?
Mon mari et moi, nous essayons toujours de comprendre.
D'ailleurs, ils ont ajouté, je crois, dans les saisons suivantes, une sorte de préambule à chaque épisode où ils expliquent à quel point les conduites suicidaires sont importantes et qu'il faut être accompagné. Enfin, il ne faut pas hésiter à en parler à qui que ce soit.
Il y a beaucoup de précautions qui sont prises, effectivement. Avec les acteurs, en plus, les acteurs de la série annoncent eux-mêmes appelez tel numéro, faites-vous aider. Donc, on a l'impression que ces acteurs même disent, ce que vous avez vu, c'est une série, c'est pas la vraie vie, même si c'est effectivement qu'on vient de l'écrire très réaliste. Donc, on a conscience que c'est un sujet délicat, quoi.
En fait, ils ont suivi des recommandations internationales qui sont émises depuis un paquet d'années, depuis une vingtaine d'années, mais que personne ne suivait, enfin, très peu, en fait. Hein. Et c'est vrai que ça, il y a un grand mouvement parmi les journalistes, notamment, en France, il y a un programme spécifique hein, qui s'appelle le programme Papageno, où on fait grandir des bébés docteurs avec des bébés journalistes pour qu'on apprenne à se parler, qu'ils apprennent à se parler quand ils seront grands. Parce que les journalistes disent souvent les psychiatres refusent de répondre aux interviews, effectivement, et ils n'ont pas tort. Donc, il faut qu'on apprenne à se parler et avec nos impératifs les uns les autres. Donc, c'est un programme qui a été créé il y a quelques années, qui commence à porter ses fruits, puisque les bébés sont devenus des grands, et donc, ils peuvent communiquer ensemble. Et le programme Papageno aussi vise des scénaristes, hein, mais aussi des romanciers, les sensibiliser à un certain nombre de choses. Et notamment, quand on parle de suicide, une des préconisations, c'est de fournir des numéros, des ressources. Et on voit très bien que Netflix s'est entièrement cadré là-dedans. Je trouve que c'est remarquable ce qu'ils ont fait un peu tard, 2 ans après, c'était un peu long.
Ce que je trouvais intéressant par rapport à cette série, ce qui était intéressant, c'est que par rapport à ce qu'on disait au début sur les potentiels de narration qu'offrent le cinéma et les séries télé. Moi, à l'origine, c'est un livre, hein, 13 Reasons Why, mais ça a vraiment été adapté de manière visuelle, de manière intelligente. Et c'est qu'il y a un procédé narratif qui est totalement artificiel et qui, même quand ça commence, on peut se dire, oula, c'est n'importe quoi. Avec cette histoire de cassette audio que, pour résumer, la personnage principale qui s'est suicidée, en fait, toute la série est un flashback. Elle a enregistré des cassettes audio. Donc, à l'ère du numérique aujourd'hui où personne n'a de cassette audio et plus personne n'a de radio cassette chez soi. Donc, elle a des cassettes audio avec des bandes et avec des gens qui écoutent des Walkman. Donc, elle a adressé ces cassettes aux personnes qui sont concernées par ce qu'elle a à dire. Et chaque épisode, c'est une cassette. C'est en gros une personne qui lui a créé un problème. Et alors, ça devrait être totalement artificiel. Mais pourtant, du point de vue narratif, ça fonctionne à mort, je trouve. Et surtout, ça touche à des choses très, très subtiles sur ce que disait Christophe Debienne, sur les relations entre les gens. En plus, tout est vu du point de vue d'un personnage qui n'est pas la jeune Anna Baker qui s'est suicidée, mais c'est un personnage qui parfois ne comprend pas où est le problème. Et c'est ça qui est très, très bien, je trouve. C'est que du point de vue de la personne qui parle, donc Anna Baker, ce qu'elle a subi fait sens. Voilà, un ami l'a abandonnée, une amie lui répond plus, une autre la regarde même plus. Et autour d'elle, les gens, quand ils écoutent les cassettes, ils disent « Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Elle est juste folle, en fait. Elle dit n'importe quoi. C'est pas bien grave, tout ça. » quoi. Et de ce point de vue-là, c'était très bien vu. Alors même que le procédé narratif pour nous amener à ça est totalement artificiel.
Tout à fait.
On va terminer sur, en quittant un petit peu votre ouvrage, Christophe, puisque c'est un sujet que vous ouvrez en quelque sorte en imaginant un hypothétique, et on le souhaite, hein, tome 2 à votre livre, c'est le sujet de l'autisme. Alors, on a évoqué tout à l'heure, on a parlé d'ambassadeurs de choix sur notamment les autistes Asperger, donc Sheldon de Big Bang Theory ou le personnage principal de la série The Good Doctor. C'est un intérêt qui est relativement récent, mais qui aussi cloisonne un petit peu la représentation de l'autisme, puisqu'on ne parle que de certains autistes, à savoir les autistes Asperger.
Alors tout à fait, aujourd'hui on parle de spectre du trouble autistique, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a, toute une... L'autisme, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. On souffre de plus ou moins de symptômes de ce trouble. Alors même, c'est un sujet qui est très très polémique en fait, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas traité, enfin il y a deux raisons pour lesquelles je ne l'ai pas traité. Là, un, je ne suis absolument pas spécialiste de l'autisme, donc,
c'est une raison suffisante déjà.
Oui, c'est déjà ça. J'essaie de ne pas faire comme certains experts, de parler de tout et surtout de ce qu'on ne connaît pas. Ceci dit, je ne suis pas un spécialiste de la schizophrénie non plus, donc j'ai demandé la relecture par un camarade. Je ne suis pas un spécialiste de la dépression, j'ai demandé la relecture par un camarade. Moi, mes deux spécialités, c'est le suicide et le trauma, donc là, j'étais à peu près... Je m'estimais à peu près légitime. Donc là, l'autisme, ça me demandait une enquête, véritablement. Certains disent que c'est un trouble neurodéveloppemental, donc qui apparaît pendant le développement du cerveau. Certains pensent que c'est de la neurologie, donc ça serait dû à des dysfonctionnements de zones particulières du cerveau. Certains disent que c'est de la psychiatrie, donc des dysfonctionnements du psychisme. Donc on est dans une ère où on est un peu en combat dans ces trois grandes hypothèses. Bon, qu'il y ait plusieurs hypothèses en médecine, c'est pas nouveau, hein. C'est comme ça que la médecine se construit. La médecine n'est pas une science, la médecine est un art basé sur la science. Donc c'est vrai que sur cette entité qui est trouble du spectre autistique, déjà, nous, c'est compliqué.
Ouais.
Je veux dire, nous, du côté soignant, c'est compliqué. Ensuite, les représentations qui sont utilisées, bah oui, c'est les représentations qui sont les plus cinégéniques. Très clairement, Sheldon, il fascine parce que c'est le côté génie qui va être mis en avant. Là, dans Sheldon, on pense aussi à Dustin Hoffman, dans Rain Man. Hein. Alors, c'était intéressant, Rain Man, parce qu'il montrait un autisme quand même qui était difficile. On voit bien que Dustin Hoffman, il était bloqué dans sa vie. Il avait beaucoup de problèmes pour avoir une vie épanouissante. Et à la fois, il y avait ce côté fascinant de ce génie là qui compte les allumettes quand elles tombent par terre. Après, dans Atypical, ce qui m'a intéressé, par exemple, dans Atypical, qui est une série Netflix aussi, c'est que je trouve que le message qui passe, c'est que c'est avant tout un adolescent. Et ça, je trouve que c'est nouveau aussi, hein. C'est avant tout une personne adolescente avec des problématiques d'adolescent. Et en raison de sa façon particulière de voir les relations humaines, dans l'autisme, ça induit des situations plutôt cocasses et plutôt drôles. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, mais effectivement, on ne parle pas d'une autre partie de l'autisme, avec des automutilations, avec une maladie particulièrement lourde, avec des déficits intellectuels. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc moi, je vais aller, si jamais il y a un épisode 2, je vais aller enquêter, honnêtement, auprès des pédopsychiatres, auprès des neurologues, auprès des associations aussi, pour essayer de brosser un tableau. En fait, ce que j'aimerais, c'est donner des éléments de réflexion. Je ne veux pas dire aux gens comment ils doivent penser, c'est pas mon rôle, mais par contre, de donner des éléments de réflexion, et donc du coup, après, dans un deuxième temps, aller chercher des représentations cinématographiques qui sont relativement rares, hein, d'ailleurs, pour illustrer tout ça.
Eh ben, on en fera un second épisode, hein. Le rendez-vous est pris, ah oui. On se laisse quelques temps. Hein.
Oui, il va me falloir un peu de temps, franchement. Quand on est nommé expert, et c'est très gentil, ça sous-tend une responsabilité dans notre communication et donc d'essayer, nous aussi, d'avoir une démarche rigoureuse avant de répondre à vos questions.
D'accord. Bon, on va terminer là-dessus parce que justement, il nous faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour explorer un peu tout ça. D'ailleurs, vous n'avez pas réussi à tout résumer en un ouvrage. C'était illusoire de penser qu'on y arriverait avec un épisode, même s'il est un peu long. Et il y a encore énormément à dire sur le sujet des troubles psychiatriques et leur représentation. Et je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est renvoyer toutes celles et tous ceux qui voudraient continuer sur la lancée de ce podcast vers votre livre, donc Nos héros sont malades, qui est paru aux éditions Humaine Science et votre chaîne YouTube Le Psylab qui est également très très riche. Merci beaucoup Christophe Debien.
Merci à vous.
Arnaud, merci beaucoup à toi aussi d'être joint à nous, je l'ai dit.
Merci de m'avoir convoqué. C'était
tout l'honneur de toi au départ.
Tout l'honneur est à Christophe Debien qui a fait ce livre. Je ne veux pas faire de réclame, mais je l'ai dévoré en fait. Il y a des choses que j'avais vues, des choses que je n'avais pas vues. Et il y a même certaines, pour être très clair, 13 Reasons Why, je ne l'avais pas vu. J'ai regardé la série après avoir lu le livre. Parce que le livre m'a donné envie d'en savoir plus.
C'est très flatteur, merci.
Alors, si cet épisode un tantinet différent des autres vous a plu, faites-le moi savoir à audio@20minutes.fr. Vous pouvez également laisser 5 étoiles et un commentaire sur notre page iTunes, mais je ne veux pas vous forcer la main, ça peut attendre la semaine prochaine. À dans 2 semaines et n'oubliez pas, même si on n'a pas l'image, on envoie la science dans tous les sens.
Laissez-vous envahir par cette petite fragilité qui va embellir votre visage. Un sourire.
Hé hey! Ça va pas la tête.
Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile.
Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
Save big money on your next project. Now at Menards. Update your home with low-maintenance vinyl windows from JELD-WEN. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on JELD WEN windows now at Menards. And don't forget to check out our flyer on menards.com for all the great deals happening now. Save big money at Menards.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.